Alors, bon matin à tous. Vous savez, j'ai dit à moi-même, le titre est dur, hein? Juger ceux du dedans. Vous sentez-vous visé? Et c'est pour cela que j'ai fait un sous-titre de ce que nous allons voir, parce que l'on est dans une section, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, qui est une section qui parle aux chrétiens. Elle ne parle pas aux non-croyants, elle parle aux chrétiens, ceux du dedans. Ceux qui sont vivants, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Parce que les Corinthiens ont des problèmes et l'apôtre Paul va intervenir pour mieux faire comprendre la gravité du péché dans l'Église. Et c'est un combat que les Corinthiens sont en train de... qui ont fait. C'est aussi un combat que nous sommes en train de faire. Donc, le sous-titre que j'ai pensé, c'est un sous-titre qui va... un peu plus nous rejoindre d'une façon plus calme. C'est un geste d'amour qui va jusqu'à la réprimande. Et ça, on peut comprendre ça. Aujourd'hui, ce n'est pas populaire juger les autres. Hein? Il y a des choses qu'on doit juger, des choses qu'on ne doit pas juger. Et à chaque fois qu'on entend le mot « jugement », il y a un blocage qui vient. « Ah, on va me juger ». Mais lorsque on parle de ce combat contre le péché qui si facilement nous enveloppe, c'est un combat qui fait en sorte que nous sommes tous appelés à exercer un geste d'amour qui va jusqu'à la réprimande envers notre frère ou notre sœur qui sont dans notre communauté chrétienne. Et ce combat contre le péché est un combat qui dure tout le temps. C'est un combat qui est présent, un peu comme la COVID dans le moment, qui est présent dans le monde entier. Le péché est présent partout, le péché est en nous. Et nous avons une prédisposition à désobéir à Dieu, très facile. Et donc, nous avons besoin des uns des autres pour combattre le péché, combattre les choses qui déplaisent à Dieu et d'être de ceux qui s'attachent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce qui concerne les choses que Dieu veut pour nous. On est dans un monde de plus en plus rebelle à Dieu, de plus en plus le bien est mal et le mal est bien, de plus en plus les valeurs judéo-chrétiennes Jésus-Christ, la Bible est dénigrée, n'est pas acceptée, et souvent on est considéré comme ceux qui sont à côté de la traque comme chrétiens. Mais lorsque on tourne dans la parole de Dieu, puis on réalise qui nous sommes, nous réalisons que ce combat est très réel en l'an 2020, très réel, aussi réel que dans le temps du premier siècle où on voit ces frères et sœurs chrétiens qui luttent contre le péché. On peut remercier Dieu pour cette église de Corinthe. Souvent, on considère cette église comme la pire église du Nouveau Testament. Tout le monde veut être à l'église de Thessalonique, la plus belle église. Mais Corinthe est une église qui a des problèmes, une église qui lutte, une église qui combat. Et c'est ça qu'il faut retenir de tout cela. Et c'est une église qui est enseignable. Et c'est une église qui veut voir clair en ce qui concerne la lutte, le combat contre le péché. Et c'est ma prière ce matin que nous tous, nous voulons avoir cette même attitude envers ce combat spirituel que nous sommes en train d'exécuter ensemble pour la gloire de Dieu. Donc, j'aimerais commencer avec un préambule. Premièrement, le péché est premièrement une offense à Dieu. Et là, lorsqu'on réalise tout cela là, ensemble, on est d'accord ensemble, ça va bien aller. Parce que le péché, en fin de compte, c'est quelque chose qui offense Dieu. Et j'ai sorti deux versets, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, qui affirme cela, et dans le chapitre 6 d'Ésaïe, il est écrit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Apocalypse 4, 8 nous dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Alors, l'affirmation que Dieu est saint est indéniable. C'est quelque chose qu'on est tous d'accord, Dieu est saint. Saint dans le sens biblique, c'est-à-dire que Dieu, il n'y a aucun mal en Dieu, Dieu ne fait pas de péché, Dieu ne fait pas de mal, Dieu est Dieu, il est pur, il est saint, il est juste, il est amour, et Dieu, dans sa nature, il est saint. Et on doit considérer cela. Et encore là, on peut aller un pas plus loin, je vais emprunter les paroles de l'apôtre Pierre, ici, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, sans péché, sans défaut, sans tâche, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et là vient cette grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux faire, moi, pour vivre une vie sainte? Et là, la conception de la sainteté vient dans notre tête de légende, de manière de voir les choses. C'est quoi ça, quelqu'un de saint? Saint, ça veut dire qu'on est sans péché. Mais non, c'est positionnel. On est saint dans notre position en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on est mis à part pour Dieu, pour vivre, pour combattre contre le péché qui si facilement nous enveloppe. Donc, on est appelé, c'est un appel. Et retournons dans 1 Corinthiens 1, 2, il est écrit ceci, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Alors, l'apôtre Paul va rassembler tous les croyants, ceux qui s'assemblent au nom du Seigneur Jésus. Il leur rappelait, vous avez été sanctifiés, vous avez été mis à part pour Dieu. Et vous êtes appelés à être saints, c'est-à-dire de ceux qui luttent contre le péché et de ceux qui vont combattre le péché et de ceux qui vont voir les choses comme Dieu le voit. Là, on va définir le bien et le mal. On va employer le mot bien et mal. On va définir le bien et le mal, pas selon le mode de ce monde, pas selon le dictionnaire, mais selon Dieu. Le bien et le mal selon Dieu. Alors, on va être de ceux qui vont vouloir, dans leur vie chrétienne, né de nouveau, par la puissance de Dieu qui est en nous, toujours favoriser ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est notre vie chrétienne, notre lutte chrétienne. C'est de faire les choses qui sont bien aux yeux de Dieu. Alors, on va ensemble lutter afin d'être ce que Dieu veut qu'on soit, des chrétiens mis à part pour lui, en luttant contre le péché qui si facilement nous enveloppe, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, en fin de compte, nous sommes nés ensemble, nous formons une communauté chrétienne, et c'est le même Saint-Esprit qui est en nous, et ensemble, nous avons à lutter à ne pas attrister le Saint-Esprit qui nous habite, qu'on va voir plus tard un peu dans la troisième prédication sur ce texte. Une chose que j'aimerais mentionner aussi, la mauvaise compréhension de la sainteté. Et c'est ce qui est arrivé avec les Corinthiens. Les Corinthiens, dans une lettre que Paul avait écrite, avaient compris, une lettre qu'on n'a pas, c'est une lettre qui a été perdue. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Et beaucoup ont pensé que la lutte contre le péché, c'était justement cela, sortir de ce monde. C'est-à-dire arriver, puis s'en aller dans une place, soit se bâtir une maison dans le bois, aller sur une haute montagne, et là on va juste faire l'épicerie, puis on va déconnecter du monde, et là, on n'écoute plus la TV, on n'écoute plus la radio, on va juste être saint, on va lutter contre le péché, on va s'isoler complètement du monde. Et c'est une mauvaise compréhension de la sanctification. Parce que les Corinthiens aussi avaient compris ça comme cela. Paul, il souligne, je ne vous dis pas de vous enlever du monde. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, le combat de ceux qui sont au-dedans, le combat, en fin de compte, c'est le mal et le bien qui est là. Le monde qui veut rentrer dans la vie chrétienne, qui veut rentrer dans nos vies, veut définir ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. Alors, est-ce que c'est... Qui va définir ce qui est bien et ce qui est mal pour nous? Est-ce que c'est le Doc Mayou qui va définir ça? Est-ce que c'est Jeannette Bertrand? Est-ce que c'est les nouveaux héros de la TV ou de la culture populaire qui va définir ce qui est bien et ce qui est mal? Qu'est-ce qui va définir? Alors, le monde est défini. Alors, nous sommes ceux qui combattent contre ce qui est mal aux yeux de Dieu. On combat cela. Et nous allons ensemble, fin de compte, je ne te prie pas, Jésus va dire lui-même, « Père, je ne te prie pas des ôter du monde, mais les préserver du mal. » Donc, la sanctification, combattre le péché, n'est pas sortir du monde, mais tout en étant dans le monde, en étant de ceux qui sont préservés du mal, et on va lutter contre le péché, on va combattre le péché, tout en étant entre deux mondes. C'est qu'il va y avoir des influences du monde qui vont rentrer, puis il y a des influences de Dieu qui vont rentrer. Et là, l'obéissance et le combat vont commencer. Et c'est pour ça que le Seigneur a prié dans la prière sacerdotale, afin qu'on soit préservé du mal. Et c'est la chose la plus importante qu'il n'y a pas dans tout cela. Et ça va, en fin de compte, nous aider à marcher pour Dieu, à lutter contre le péché, à combattre le péché, à identifier le péché selon Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal, selon Dieu. Et c'est toute une tâche. L'apôtre Paul va aider les Corinthiens dans tout cela. J'aimerais ici souligner comme troisième point, ceux du dedans marchent dans une sanctification progressive. Alors, Corinthiens va nous montrer ceci. Il y a ceux du dedans, dans 1 Corinthiens 5, 12, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont dans la communauté chrétienne, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, et il y a ceux qui marchent dans les ténèbres, il y a ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a deux sortes de personnes. Et Paul va nous dire aussi, dans 1 Corinthiens 1, 18, nous sommes sauvés. Sauvés, quoi? Ça veut dire nous sommes sains et saufs. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, nous savons que notre vie chrétienne est en train de se vivre dans le centre, ceux du dedans, c'est nous, et nous sommes en train de marcher dans notre vie chrétienne. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, qui avons entré par la porte que le Seigneur est, le Seigneur dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Et là, nous sommes en train de marcher dans notre vie chrétienne et nous avons dans ce petit point noir-là notre nature pécheresse qui est encore là. Parce qu'on est encore en train de marcher sur cette terre, on est en train de lutter contre le péché, on est en train de chercher la face de Dieu en ce qui concerne le bien et le mal et on est de ceux qui sont sensibles à tout cela. Mais est-ce qu'on arrive dans nos vies chrétiennes où on n'a plus de sensibilité face au péché? C'est un drapeau rouge, faisons attention. Il faut être sensible face à ce qui déplaît à Dieu et travailler là-dessus par la grâce de Dieu. Alors, un jour, on va être délivré de tout cela. Le petit point noir, il ne sera plus là. On va être ressuscité, incorruptible. On va avoir un nouveau corps glorieux. Mais en attendant, on est sauvé de la punition du péché. Nous sommes sauvés. On est sauvé de la puissance du péché sur nous. On n'est plus des esclaves du péché. On est esclaves de la justice de Dieu. Et on est dedans, en train de vivre cela. Et lorsqu'on va mourir, lorsque le Seigneur va revenir nous chercher, on va être sauvé de la présence même du péché. Et c'est ça la sanctification progressive. Et c'est ça, en fin de compte, que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens que vous êtes en train de lutter contre le péché qui si facilement vous enveloppe, encore une fois. Alors, ce nommant frère, dans 5:11 ici, on voit que le texte nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a ceux du dehors qui vivent, on n'a pas à les juger dans le sens, vous allez corriger votre vie, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. On n'a pas vraiment à y aller dans ce sens-là. Mais lorsqu'on est en communauté, lorsqu'on est ensemble, en train de grandir ensemble dans le Seigneur, en train de marcher ensemble pour la gloire de Dieu, en train d'honorer le Seigneur ensemble, on est de ceux qui se disent frères et sœurs, on se nomme chrétien. Alors, si on ose dire qu'on est chrétien, en fin de compte, sachez qu'à quelque part, nous avons à nous aider les uns les autres. Et ce geste d'amour qui va jusqu'à la réprimande, c'est celui-là. C'est que si vous m'aimez assez, venez me reprendre pour les péchés que je fais, que vous voyez en moi. Venez m'en parler, ni prier pour moi, ni prier avec moi, parce que j'ai besoin de vous pour lutter contre ce péché qui si facilement nous enveloppe. Et c'est quelque chose de bien important. L'apôtre Paul ici va identifier ceux du dehors, parce que les Corinthiens avaient mélangé les choses. Ils voyaient pas les choses comme il faut. Et l'apôtre Paul ici va faire la différence entre ceux du dedans et ceux du dehors. Parce que c'est ceux du dedans, ceux qui vivent la vie chrétienne avec nous, dans notre communauté chrétienne, c'est eux qui luttent contre le péché avec nous, pour nous. Et nous, ensemble, nous grandissons dans le Seigneur. Et on voit aussi une liste ici que l'apôtre Paul va donner. Je ne voulais pas trop passer de temps sur cette liste, mais il y a 6 choses que l'apôtre Paul va mentionner. C'est plus qu'une liste. Il faut savoir que notre responsabilité envers nos frères et nos sœurs, c'est plus qu'une liste qu'il y a là. Il y a plusieurs autres listes dans la parole. On n'ira pas ce matin dans cela. Mais pour nous, ce matin, je voulais la regarder quand même. Il parle de la débauche, des relations illicites, qui est le mot « pornéa », qui devient le mot « pornographie » aujourd'hui. Il y a la cupidité, qui est une personne qui domine par l'avarice. Il y a l'idolâtrie, les objets qui prennent la place de Dieu, ou les choses qui prennent la place de Dieu. Et les trois autres, on a l'outrageux, ivrogne, ravisseur. Et ce que j'ai souligné ici, cupide, outrageux et ravisseur, de mon vivant, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été mis sous discipline à cause de cela. Cupide, outrageux, aux ravisseurs. Parce que, en fin de compte, outrageux, c'est ceux qui insultent, ceux qui calomnient, ceux qui parlent contre. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été mis sous discipline ou qui a été sorti jugé hors de l'Église à cause de ces choses-là. Mais j'ai vu des gens qui ont été rencontrés pour cela, par exemple. Frères, sœurs, croyez-vous que ce que vous calportez, ce que vous dites de l'Assemblée ou de telle personne, de votre frère, de votre sœur, nuit à la réputation du Seigneur? C'est arrivé de voir des gens. Et en passant, là, avant d'excommunier quelqu'un, avant que quelqu'un soit mis en dehors de l'Église, on va prier que 99,9% des problèmes qui sont mentionnés dans cette liste et autres soient réglés avant que ça arrive à la discipline locale. Parce que le but de tout cela, c'est tout ça qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on voit dans cette liste explicite pour, que les Corinthiens ont entre les mains, c'est vraiment des types de péchés, débauches. Ça englobe la fidélité, ça englobe la sexualité, tout l'aspect sexuel qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite pour la sexualité. Ça va des transgenres à l'homosexualité, etc. Et on a tout perverti la manière que la parole de Dieu enseigne la sexualité. Et la cupidité, c'est de vivre pour l'argent, l'avarice et ces choses-là, les fraudes. On voit des gens, des ravisseurs et toutes ces choses-là. C'est vraiment une liste qui est affreuse. Mais c'est toutes des choses qu'on doit adresser dans nos propres vies personnelles, dans nos vies. Alors, on doit se poser la question, est-ce que je suis en train de lutter contre la débauche? Est-ce que je suis en train de lutter contre la cupidité, contre l'idolâtrie? Est-ce que je suis outrageux? Est-ce que je fais de la calomnie puis de la médisance? Est-ce que je suis celui qui suscite des controverses et qui pousse les chrétiens à s'engueuler les uns les autres? L'ivrognerie, est-ce que je lutte contre l'ivrognerie? Est-ce que je suis ravisseur? Ici, le ravisseur, c'est très important, qui s'empare et enlève des ravisseurs, des personnes violentes, qui kidnappent. Il y avait dans le temps de l'apôtre Paul des personnes qui kidnappaient des esclaves pour les envoyer ailleurs, puis c'était rentré dans l'Église, ces choses-là. Alors, il y avait ces choses qui sont affreuses. Et la question de base, en fin de compte, lorsqu'on sort de cette liste, c'est que peu importe la liste, on peut en mettre encore 6 autres, 12 autres. L'idée là-dedans, c'est qu'on doit discerner ce qui est bien, ce qui est mal aux yeux de Dieu pour chacun de nous. Et on doit vraiment l'appliquer dans nos vies et s'aider les uns les autres à appliquer cela dans nos vies. Alors, le Nouveau Testament énumère au moins 3 catégories de personnes qu'il faut exclure de la communauté locale. Ceux qui vivent dans le désordre permanent, il y a toute personne immorale et les hérétiques qui, par exemple, nieraient que Jésus-Christ est Dieu. Alors, ces trois aspects-là englobent, si vous voulez, encore là, la lutte que nous avons contre le péché qui si facilement nous enveloppe. Ceux qui vivent dans un désordre. Alors, c'est quoi un désordre? Vous savez, je pense qu'on le sait dans notre cœur lorsqu'on fait quelque chose qui déplaît à Dieu. Un moment donné, la parole de Dieu nous parle. Un moment donné, un frère ou une sœur nous parle. On réalise que notre vie n'honore pas Dieu. C'est quelque chose qui vient à nos yeux. Le Seigneur nous montre et nos frères et nos sœurs qui nous aiment vont pointer du doigt des choses dans nos vies qu'on doit régler pour honorer le Seigneur. Et toute personne immorale, ça touche tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans cette liste. Ces personnes qui vivent d'une manière comme si Dieu n'existerait pas et eux vont faire ce qu'ils veulent faire vraiment, puis ils s'en foutent. Puis il y a ceux avec les doctrines qui dénigrent Jésus-Christ, qui dénigrent la Bible, qui dénigrent le salut, qui dénigrent Dieu, qui nient Jésus-Christ, les hérétiques, les personnes qui vont contre, les antichrists, ceux qui vont contre la parole de Dieu. Alors, c'est 3 grandes catégories qu'on peut voir ici. Alors, les agapes de Corinthe, on va revenir au texte de Corinthe dans Corinthiens 5, 11b, de ne pas même manger avec un tel homme. Alors, l'apôtre Paul ici, après avoir fait cette liste, parle de cette relation d'intimité avec les personnes. On ne doit pas avoir des relations intimes avec ces personnes-là. Et il nous parle ici de ces personnes qui vont, dans un certain sens, menacer l'Église. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » On voit ça dans Thessaloniciens. Alors, on voit que l'apôtre Paul ici va dire, « Attention, ces personnes détruisent le témoignage du Seigneur, ces personnes détruisent leur vie et la vie des autres. N'ayez pas de communion intime avec eux et mangez même pas avec eux. » Parce qu'il faut comprendre que les agapes de ce temps-là, c'était pas rien que manger un petit hot dog rapidement, mais c'était le repas du Seigneur qui était en ligne dans tout cela. C'était manger et boire et se souvenir du Seigneur en même temps. Donc, on voit que l'apôtre Paul est soucieux de tout cela. Et on voit aussi que l'apôtre Paul va mentionner que deux groupes. Et dans ces deux groupes, il y en a un qui est jugé. Et c'est pour cela le premier titre que j'avais trouvé, « Juger ou ne pas juger ». Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Et là, peut-être le mot « juger », ça vous frustre, si vous dites « Ah, moi, je ne veux pas être jugé ». Vous savez, juger, qu'est-ce que ça veut dire vraiment juger? C'est d'avoir un discernement sur notre vie chrétienne. Est-ce que je vois comme il faut la manière que je vis pour Christ? Ou est-ce qu'un frère ou une sœur dans l'Assemblée pourrait m'aider à voir la vie chrétienne comme qu'elle doit être vue, comme qu'elle doit être vécue? Et l'apôtre Paul va vraiment mettre la phase là-dessus en disant, écoutez, préoccupez-vous de ceux du dedans, ceux qui sont chrétiens comme vous, en train de lutter contre le péché, ceux qui sont en train de marcher pour la gloire de Dieu. Occupez-vous d'eux, là. Et aidez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, parce que vous avez été mis à part pour Dieu. Vous êtes de ceux qui marchent en nouveauté de vie. Vous êtes plus redevables à ce monde. Votre système de pensée, vos valeurs, votre manière d'agir, votre manière de faire les priorités dans vos vies ont changé complètement. On a les mêmes valeurs, les mêmes priorités dans nos vies. C'est de donner de gloire à Dieu dans tout cela et marcher pour Dieu. Donc, aidons-nous les uns les autres. Ayons du discernement les uns pour les autres et jugeons-nous les uns les autres. On doit se juger soi-même. Voir clair dans nos vies, voir qu'est-ce qui dérange Dieu dans ma vie. Qu'est-ce qui dérange Dieu dans ma vie? C'est une question qu'il faut se poser. Je ne sais pas pour vous, mais vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir, bien comme il faut, mais pas n'importe comment. Vous regardez dans le miroir en plein dans vos yeux, puis de vraiment voir la qualité de vie chrétienne que vous êtes en train de vivre, que je suis en train de vivre. Je l'ai fait moi déjà, puis une fois que j'ai sorti vraiment les oreilles basses, laissez-moi vous dire ça. Parce qu'à quelque part, s'examiner soi-même, se juger soi-même, et laisser les frères et les sœurs nous examiner, discerner en nous les choses qui ne vont pas. Et lorsqu'ils viennent vers nous, ces frères et ces sœurs, il faut voir cela, non pas comme quelque chose d'affreux, mais comme un geste d'amour qui va jusqu'à la réprimande. Par amour pour moi, quelqu'un peut venir me reprendre. Par amour pour moi, motivé par l'amour pour moi, quelqu'un peut venir me dire, dans ma vie, telle chose ne reflète pas le caractère du Seigneur Jésus, ne reflète pas que je suis vraiment un enfant de Dieu. Vous savez, la parole avertit que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur Jésus s'éloignent, qu'ils aient l'action de s'éloigner de l'iniquité. Parce que dans la parole, c'est clair et net. Il y a ceux du dedans, il y a ceux du dehors. C'est un terme que Paul emploie pour démontrer qu'il y a une différence entre ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont saints positionnellement, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est les ténèbres et la noirceur. Donc, ceux qui marchent dans la clarté disent, « Hey, je me préoccupe du péché. Je me préoccupe des choses qui déshonorent Dieu dans ma vie. Je me préoccupe de la manière que je grandis dans le Seigneur. » Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il y a des études bibliques, que la méditation qui est proposée, que la lecture de la parole, parce qu'on veut grandir ensemble dans le Seigneur pour honorer le Seigneur. Et l'apôtre Paul ici les distingue, les deux groupes, et ces deux groupes-là sont face à face. Et c'est pour cela que l'Église ne pourra jamais, jamais se déguiser assez pour plaire au monde. Faites ce que vous voulez, peinturez les murs, n'importe quelle couleur, arrangez ça comme vous voulez, que vous ayez n'importe quelle enseigne, ça ne sera jamais assez beau pour le système de ce monde. Le système de ce monde, lorsqu'il rentre à quelque part, change complètement les cœurs. Et c'est pour cela que notre combat spirituel est le même combat des Corinthiens, c'est de voir clair en ce qui concerne la gravité du péché qui si facilement nous enveloppe. Alors, on peut avoir trois approches, une approche immédiate, lorsqu'on se juge les uns les autres, on est jugé par les autres. Il y a une approche immédiate, comme dans 1 Corinthiens 5, 11, l'apôtre Paul voit qu'il y a de l'inceste, un homme couche avec sa belle-mère, et là, les chrétiens font rien. La débauche dans l'Assemblée, ils font rien. L'apôtre Paul, par l'Esprit et avec eux, et à la puissance de Jésus, qui n'est même pas à la même place, juge déjà ce comportement qui déplaît à Dieu. Et est étonné que l'Église n'ait pas réagi. Étonné. Que vous faites là, c'est même pas considéré comme bien parmi les non-croyants, puis vous le faites. Alors, il y a l'approche immédiate. Il y a l'approche immédiate pour juger, pour aller vers quelqu'un. Il y a l'approche à un ou deux avertissements dans Tite. On voit aussi que c'est que les gens sont avertis, c'est privé. Ça commence avec le privé. Un avertissement, deux avertissements. Il y a aussi l'approche graduelle. Et l'approche graduelle, c'est l'approche la plus courante que je connais. C'est une approche qui est décrite dans Matthieu 18. Et alors, c'est une rencontre privée, ça commence comme cela. Et comme je disais à quelqu'un ce matin, j'espère, et ma prière, c'est que parmi nous, 99,9% des problèmes vont se régler dans le privé. Dans le privé, l'un vers l'autre. Prier ensemble, confesser nos péchés les uns aux autres, comme la parole dit dans Jacques, d'être de ceux qui sont sensibles à la gravité du péché, qui déplaît premièrement à Dieu. Et parce que nous sommes en position de sainteté, nous sommes mis à part pour Dieu, on est de ceux qui sont capables de se rencontrer les uns les autres et de prier ensemble et régler le péché qui nous empêche de grandir dans le Seigneur. J'ai eu dans ma vie à rencontrer deux hommes dans la même journée. Le premier homme a sacré après moi, puis il est parti choqué en fermant la porte, et le deuxième me remerciait dans l'après-midi. Ça n'a pas commencé un bon matin, mais on vous dit bien franchement. Parce que j'avais rencontré quelqu'un pour des choses assez graves, et la personne a refusé complètement, puis il était vraiment en colère. Tandis que l'autre, qui avait fait des choses pas trop correctes, que je devais rencontrer à cause de certaines choses, mais lui, il m'a dit merci. Il dit merci de me l'avoir dit. Il dit, je ne le réalisais pas, c'était comme ça. Et à quelque part, cette rencontre en privé, c'est très important. Puis notre prière, c'est que quand on se rencontre ensemble, on prie ensemble, on est capable d'aller chercher le pardon, on est capable d'aller chercher ce qui plaît à Dieu et nous discernons ensemble ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a la rencontre deux ou trois témoins, comme la parole dit, s'il y a quelque chose qui se passe, deux ou trois témoins, c'est qu'à quelque part, lorsque la rencontre privée n'a pas réussi, on tombe avec, bien, je vais aller chercher des témoins. Des fois, c'est préférable d'aller chercher peut-être un responsable ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous rencontrez la personne. Ça serait que ça arrête là. Ça arrête là. Puis prions que 99% des problèmes se règlent là. Hein? Prions. Et la troisième étape, c'est de le dire à l'Église. Et c'est lorsque, malheureusement, avec tristesse, un ancien, un responsable se lève devant l'Assemblée puis il lise une lettre comme de quoi telle personne à désobéir flagrantement au Seigneur. Des fois, ça prend du temps, des fois, ça prend moins de temps, tous les cas particuliers. Et c'est dit à l'Église. Et l'Église, elle, doit être complice à tout cela. L'Église va prier pour cette personne. L'Église, lorsqu'elle va rencontrer cette personne-là, va parler de repentance, va parler de revenir au Seigneur. C'est ce qu'elle va faire, l'Église. Parce que l'Église est embarquée dans cette tâche de mise à part pour Dieu, puis lutter ensemble contre le péché et prier pour la personne qui est égarée, qui est prise dans un certain péché. Alors, considéré comme un sans-Dieu, ici c'est Matthieu 18, le Seigneur Jésus veut dire en fin de compte, quelqu'un qui va jusqu'à la rébellion contre Dieu, on doit le considérer comme quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, quelqu'un qui, s'il a connu Dieu, il l'a tordu, il l'a mis à son image, il l'a déformé. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Donc, considérez cette personne-là comme quelqu'un qui vit sans le vrai Dieu de l'univers. Alors, c'est un processus qui est difficile, qui n'est pas facile, mais c'est un processus qui est là. Le but de la démarche, en fin de compte, c'est aider un frère et une sœur en Jésus-Christ qui s'est égaré. Et c'est ça le but de la démarche. Le but de la démarche, ce n'est pas la punition. Le but de la démarche, c'est d'aider nos frères et nos sœurs à vivre pour Dieu, à avoir une victoire sur le péché qui souvent a pris place dans le cœur de la personne, et d'aider cette personne-là à aller de l'avant. La deuxième raison, c'est d'amener les autres chrétiens à réaliser la gravité du péché, et prendre le péché au sérieux. Ça, c'est important. Savoir que le péché est sérieux. Parce que vous savez, on est comme... Vous connaissez l'histoire du crapaud qu'on met dans l'eau et qu'on fait chauffer. L'eau froide, le crapaud reste, puis là, tu chauffes l'eau jusqu'à temps qu'elle bouille. Puis il ne s'en aperçoit pas. Puis à un moment donné, l'eau va bouillir, l'eau va venir chaude, puis le crapaud va rester là, puis il va mourir. Et c'est un peu comme ça, le péché. Le péché, c'est comme quelque chose qui vient tranquillement, pas bouillant tout d'un coup, qui nous fait mal, tranquillement, séducteur, facile d'aller vers cela, et on ne s'en aperçoit pas, puis tranquillement, on commence à donner peut-être un demi-pouce, puis ça prend un pouce et demi, ça prend deux pouces et demi. Alors, ça grandit comme cela. Donc, c'est la gravité du péché. Alors, le but de cela aussi, c'est de maintenir la réputation du Seigneur et l'intégrité morale de l'Église locale. Et cela, c'est quelque chose qu'on veut faire ensemble. Ensemble, on va marcher ensemble pour garder une réputation au Seigneur parmi nous, où que les gens vont regarder du dehors, vont nous voir différents, mais ceux du dedans vont voir qu'on marche de manière intègre avec Dieu. Et on va être de ceux qui ont gardé la réputation du Seigneur. Et nous allons définir les valeurs judéo-chrétiennes, nous allons définir le bien et le mal comme Dieu les définit. Et c'est cela qui est le bas de la ligne. Est-ce qu'on est soucieux de lutter contre le péché? Parce que le mot péché, vous savez, c'est un vieux mot. Il y en a qui disent le péché, c'est un vieux mot. C'est comme le mot COVID qu'on entend. On est tanné d'entendre COVID. Mais il faut le dire. Lavez vos mains, mettez votre masque. Il faut le dire. On est tanné de l'entendre. Le mot péché, c'est un peu comme ça. On est tanné d'entendre le mot péché. Mais manquer le but pour lequel on a été créé, c'est le péché. Manquer le but pour lequel nous avons été créés, c'est le péché. Alors, ce qui est mal aux yeux de Dieu, on doit le discerner ensemble. Et quatrièmement, l'intention n'est pas de punir, mais de réintégrer la personne. Maintenant, j'aimerais vous montrer, il reste 4 minutes, j'aimerais vous montrer ceci. Nos valeurs reflètent notre identité, notre manière de penser, notre manière d'agir, l'entreprise que nous voulons être tous les jours. Ça, c'est une compagnie d'assurance. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ces belles paroles-là? Si on dirait, là, « Hey, ça, c'est pas une compagnie d'assurance », puis en plus de ça, regardez l'unité de cette équipe-là. Là. Les gens sont là, sont prêts. Ils sont prêts. Là. Écoute, nous, là, on a des valeurs. Nos valeurs reflètent notre identité. Quelle vérité, mes amis. Quelle vérité. J'aimerais pouvoir appliquer ça à l'Église de Jésus-Christ. Appliquer ça à notre assemblée au Cap. Nos valeurs reflètent notre identité. Qui nous sommes? En Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part, nous sommes saints, non pas dans le sens sans péché, mais dans le sens qu'on est mis à part pour Dieu et nous luttons contre le péché qui effectivement nous enveloppe encore une fois. Notre manière de penser. Pourquoi lire la Bible? Pourquoi étudier la Bible? Pourquoi être soucieux de discerner entre le bien et le mal? Parce que nous voulons penser selon Dieu. Notre manière d'agir. Qui influence la manière qu'on pense, la manière que j'agis envers mes frères et mes sœurs, la manière que j'agis envers les gens du dehors, les gens du dedans, peu importe, mon comportement chrétien, notre manière d'agir, l'assemblée que nous voulons être, toujours, c'est le reflet qu'on veut donner. Quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, hey, j'aimerais ça avoir pensé à ça, puis dire, voici l'assemblée, nos valeurs. Reflète notre identité. Et la lutte contre le péché, se juger, les uns les autres, dans le sens biblique, dans le sens discerner le péché, qui scrape des vies, qui scrape le témoignage du Seigneur dans nos vies, et être des aides les uns aux autres à lutter contre le péché qui effectivement nous enveloppe, encore une fois, est quelque chose de très important. Alors, la conclusion, c'est ceci. Cette semaine, le premier ministre du Québec, M. Legault, a proposé un contrat moral. Hein? Un contrat moral aux Québécois pour le temps des fêtes. Et ce contrat moral-là, bien, c'est qu'on va faire attention, on va porter des masques, on va réglementer nos réunions du temps des fêtes, on va faire ça comme il faut. Et puis, il fait confiance. Il fait confiance aux Québécois. Si je vous poserai la question, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Pensez à ça. Ça va-tu fonctionner? On va savoir 14 jours après. Exactement ça. Et j'ai mis la définition d'un contrat moral, parce que dans le fond, d'être d'une assemblée, d'être membre d'une assemblée, c'est un contrat moral qu'on fait ensemble. Pas légal, là, dans le sens où vous allez en prison si vous ne le faites pas. Là. Mais c'est un contrat moral, c'est un engagement. C'est un engagement mutuel qui s'applique sur les notions d'équité, d'autonomie volontaire et de réciprocité. Voilà la lutte contre le péché. Voilà ce que les Corinthiens apprennent, qu'il y a un contrat moral dans l'Église. On ne peut pas se comporter comme le dernier des vauriens ou des vauriennes dans l'Église. On ne peut pas avoir un langage qui déplaît à Dieu, une attitude qui déplaît à Dieu, des paroles qui déplaît à Dieu, des manières d'agir qui déplaît à Dieu. On est là pour refléter le caractère de Jésus-Christ. On est là pour refléter la sainteté de Dieu dans la capacité que nous avons à la gloire de Dieu. On est là pour marcher, pour honorer Dieu et garder la réputation de Jésus-Christ. On se dit chrétien. Il n'y a pas pire nouvelle que lorsqu'on entend des nouvelles. Un tel pasteur à telle place, il a fait telle affaire, puis il a fait telle affaire. On pourrait en nommer des listes très longues de tout cela. Et à l'Assemblée du Cap, on doit avoir un contrat moral en ce qui concerne notre comportement, notre manière d'agir, les uns envers les autres et envers ceux du dehors comme ceux du dedans. Que le Seigneur nous aide dans tout cela, à marcher pour lui. Je sais que c'est un enseignement qui est difficile. Qui veut se lever le matin et dire « Moi, je vais être jugé? » Parce que c'est péjoratif, le mot « juger », c'est péjoratif au bout. Mais c'est un vrai mot. C'est un vrai mot. Parce que lorsqu'on parle du mot « jugement », on parle de discerner les choses qui déplaient à Dieu. Donc, c'est un beau mot. C'est un mot qui nous dit « Vois clair dans ta vie, rêve pas en couleur, entreprends ta vie, puis définis les choses selon Dieu. Ce que Dieu dit bien, c'est bien. Ce que Dieu dit mal, c'est mal. Ce n'est pas le monde qui va définir le bien et le mal pour toi. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à rester dans la parole et d'être dans ce monde, usant du monde comme n'en usant point. Et sachons que nous avons tous ce combat spirituel à lutter, comme les Corinthiens, dans notre assemblée, afin que Dieu soit honoré dans tout cela. Prions. Seigneur Dieu, merci pour le temps ensemble. Merci pour, oui, ce sujet de ce geste d'amour qui va jusqu'à la réprimande. Être soucieux les uns pour les autres, à grandir en toi, Seigneur. D'approcher nos frères et nos sœurs et les accompagner dans la lutte contre le péché. Seigneur Dieu, on te demande de nous aider, chacun de nous, à faire de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, à la gloire de ton nom. Amen.